Bonsoir, les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est et à Saint-Sigle ont décidé mercredi 31 mai de renouveler le mandat de la force régionale déléguée en RDC jusqu'au 8 septembre 2023. La décision a été prise par les chefs d'État et des gouvernements de la communauté est-africaine réunis lors du 21e sommet à Bujumbura au Burundi. Ce mandat devrait normalement prendre fin ce jeudi 1er juin 2023. Le sommet engage également les pays membres à procéder à une évaluation du mandat de la force d'ici au 15 juin prochain. Le sommet a aussi décidé du précontrôlement du M23 à Rumangabo au Nord Kivu sous la supervision du facilitateur de la force régionale et des FRDC. La délégation congolaise était conduite par Moussa Nyamwisi, ministre d'État à l'intégration régionale. Que pensez-vous des décisions issues du 21e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté est-africaine sur la question du M23? Nous en parlons ce soir avec moi dans ce studio, Jean-Baptiste Mendoka Sekwa, député national, élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint des DCD, parti membre de la coalition Lamuka. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mendoka Sekwa, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Christian Moleka, il est analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir Kelly et bonsoir également à tous mes co-débatteurs.
En ligne, le professeur Jean-Claude Chilumbaye est avec nous. Il est député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Professeur Jean-Claude Chilumbaye, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur la radio de la paix.
Vous êtes déjà très très nombreux à réagir au thème de ce soir sur le cas de Adonis Kamengwa depuis Kolozi au Lualaba. La prorogation du mandat de la force de l'EAC devrait être a priori les résultats d'une évaluation, un examen approfondi des apports de cette force au pays avant toute possibilité d'un éventuel contrat. Décider de la prorogation avant un diagnostic avéré de cette mission pour un traitement efficace des imperfections enregistrées et en proposer des meilleures attitudes à adopter pour la suite est une stratégie qui pêche peu par conséquent. Comporter des faiblesses et limites passées dans ce nouveau contrat validé. Akindo Maniema, vous nous suivez sur la 103.0. Et si vous êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Au Burundi, la communauté d'Afrique de l'Est a décidé de la fin du mandat des forces régionales au 8 septembre 2023 prochain. Au-delà du communiqué final, plusieurs questions ont été débattues, entre autres sur le nouveau site de précantonnement de Rumangabo, l'investigation des sites des massacres qui auraient été perpétrés dans les zones occupées par le M23. Notre envoyé spécial Fiston Ngoma à Bujumbura, voilà, nous en dit plus.
Les 7 pays membres de l'EAC promettent d'exécuter leur mandat comme il se doit. C'est après une forte pression exercée par la délégation de la RDC, celle-ci conduite par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Antipas Moussa Nyamwisi rassure que cette prolongation du mandat de la force régionale permettra à la partie congolaise de faire une évaluation au 15 juin à Goma ou à Kinshasa, de constater la bonne volonté du contingent de l'EAC à passer à l'offensive et enfin d'étudier les modalités de remplacement sur l'espace occupé actuellement par cette force régionale. Par ailleurs, la partie congolaise justifie son choix du site de pré-cantonnement des éléments du M23 sur Rumangabo. Ce site remplit les conditions minimales d'accueil par rapport à Kichanga, Sabinho et Runyoni, comme initialement proposé. Au prélude de ce sommet, le vice-ministre de la Défense de la RDC, Sami Adubango Awoto, avec les experts militaires congolais, s'était opposé à la demande du Soudan du Sud de déployer le reste de ses troupes à Dungu dans la province de l'Ituri, dans le même cadre de l'EAC. Ils ont demandé à la délégation sud-soudanaise de saisir la RDC en bilatéral pour cette question. Signalons que la délégation congolaise est repartie ce jeudi à Kinshasa. De Bujumbura, Fiston Ngoma Mayaba, la Radio Kapi.
Merci Fiston Ngoma pour tous ces détails, professeur Jean-Claude Chilumbaye. Je rappelle que vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation, les États membres de l'EAC ont prolongé le mandat de la force est-africaine jusqu'au 8 septembre prochain, notamment pour consolider les gains obtenus sur terrain. C'est ce que dit le communiqué qui a sanctionné le 21e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'EAC. Alors que beaucoup de Congolais s'attendaient à ce que cette force puisse quitter le pays et même les autorités du pays, notamment le ministre des Affaires étrangères et même le président de la République, avaient carrément dit que cette force avait échoué sa mission sur terrain. Comment vous jugez cette décision du sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'EAC?
Oui, madame. D'abord, il faut partir du principe que ce renouvellement du mandat est consensuel parce qu'il a fait partir de la volonté aussi de notre propre pays, qui a discuté avec les États participants de l'EAC, une organisation dont nous sommes membres, et que les conditions de renouvellement ont été dictées, entre autres, par le fait qu'il faut améliorer la qualité du service que les autres partis ont accepté, c'est-à-dire accepter de rentrer dans le mandat tel qu'il a été défini initialement, et que là, même si nous nous réservons l'évaluation, il y a déjà une évolution dans ce sens et tous consentent au fait qu'il y a eu des échecs, mais il y a aussi des avancées. Le fait que la calmie observée sur le terrain peut permettre de redéfinir le narratif de cette intervention, si la volonté affichée de pouvoir intervenir, de définir préalablement, ça signifie que le mandat devra être offensif si nous voulons qu'il respecte le principe défini à la base. Voilà. Et ici, ce qui est le plus important, c'est qu'en même temps, l'évolution de la position de l'EAC pas tout simplement une position définie à l'ère nouveau, c'est un constat aussi de la montée en puissance de FRPC et désormais une discussion qui s'est faite avec une armée congolaise de plus en plus organisée qui permettrait que la communauté des États d'Afrique de l'Est subisse notre orientation et non le contraire.
Alors, vous parlez de montée en puissance des FARDC. Sur terrain, l'armée accuse le M23 de préparer une offensive sur la ville de Goma et de réoccuper les localités qu'ils avaient abandonnées, alors que ces localités sont contrôlées par les forces de l'EAC. Pensez-vous qu'avec cette prorogation du mandat de la force de l'EAC, les forces ou la force sur terrain va essayer de rectifier les tirs et aller dans le sens.
L'armée annonce cette volonté affichée de l'armée rwandaise de se réorganiser dans cet objectif. Notre armée a aussi annoncé de tenir des capacités de pouvoir suivre et contrôler la situation et mettre notre population à l'abri. C'est ça qui est le plus important, parce que nous sommes dans une situation où il faut dire que le déploiement de ces troupes, quand même l'on voudrait qu'elles se retirent, ça ne sera pas du jour au lendemain, c'est une logistique assez complexe qu'il faudra suivre. En même temps que la pression de la RDC a été évidemment entendue par nos partenaires, et que de l'autre côté il y a cette décision de la SADC de pouvoir venir à la rescousse de nos troupes sur terrain, ce sont trois facteurs qui permettent que la redéfinition de ce mandat ne soit plus exactement ce que ça a été avant le premier mandat, parce que là nous avons désormais affaire avec les troupes ou nos troupes, les FARDC bien aguerries et suffisamment équipées pour faire face à la situation sur terrain. Nous avons aussi affaire à cette réalité que des pressions menées par le président de la République et des contacts diplomatiques engagés tant bien aux Nations Unies qu'ailleurs, mais aussi la volonté affichée de la SADC de venir à la rescousse, ont fini par désamorcer l'hypocrisie de nos partenaires de l'Afrique, des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais ainsi, donc, il y a à croire que la démarche n'est plus la même et que malgré l'hypocrisie et ses tentatives de chantage et autres paramètres intervenus dans la première phase, les coalisés de l'Afrique de l'Est devraient compter avec une armée congolaise de plus en plus organisée et dont la montée en puissance ne se fera que fulgurante jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'extirper les infiltrations, mais aussi de bien tenir toutes les positions par nous-mêmes et de libérer totalement notre pays.
Mais dans le communiqué, en fait, au niveau de la RDC, on veut un mandat beaucoup plus offensif de la force, mais dans le communiqué final, nulle part, il est écrit que le mandat de la force sera offensif. Déjà qu'il y a un problème hein, qui se pose au niveau même du mandat de cette force de l'EAC en RDC.
Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que le mandat ce devrait d'être offensif parce que c'est ça, en fait, sa configuration initiale. Et les dénonciations que nous n'avons que faire sont liées notamment au fait que cette force n'a pas exécuté le mandat tel qu'initialement prévu. Donc, si l'on convient que désormais le mandat devait s'exécuter, c'est par rapport à sa configuration initiale des mandats offensif, bien évidemment, parce que désormais, ceux qui hésitaient encore ont fini par comprendre que la guerre dans l'Est n'était pas une rébellion des populations congolaises ou des groupes armés congolais, mais bien une agression rwandaise voilée. Et donc, lorsqu'il y a agression, il y a légitime défense, et qu'en vertu de la Charte des Nations Unies, plus précisément son article 51, lorsque un État comme le nôtre est en cette position de légitime défense, il peut l'assumer individuellement ou collectivement avec les autres États membres, en attendant que le Conseil de sécurité, bien évidemment, prenne des mesures qui s'imposent conformément à l'article 7 de la Charte des Nations Unies, c'est ce qui se fait actuellement. Et donc, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire que ça soit mentionné parce que c'est ça le mandat. Il est
mais ça pourrait aider les parties, toutes les parties prenantes à avoir la même compréhension du mandat, professeur.
Les parties prenantes ont su que nous n'étions pas d'accord avec le format qu'ils ont improvisé après le déploiement. Elles savent que si nous convenons que le mandat soit renouvelé, c'est parce que on s'est préalablement entendu sur le narratif de ce mandat et le concept à lui imprimer. Ça signifie qu'il s'agit ici de faire face à des groupes armés, de faire face à une agression étrangère, plus précisément du Rwanda, désormais reconnu par tout le monde, et que cela ne devrait plus souffrir de controverses. Et donc, c'est aussi clair dans le message que le chef de l'État a exprimé à ses partenaires de l'Afrique de l'Est, que si les troupes de l'EAC ne seront pas en mesure de parvenir à l'exécution parfaite de ce mandat, elles devraient plier bagages et partir pour que notre armée se batte sur terrain. C'est pourquoi, en même temps que nous négocions avec eux, en même temps, nous renforçons notre armée en équipement et en formation des unités complémentaires pour que nous soyons exactement en mesure de sécuriser notre pays de manière efficace et durable.
Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, c'est un parti membre de la coalition La Moukard. Vous êtes aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de cette décision issue du 21e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'EAC?
Merci. Cette décision intervient au 352e jour de l'occupation de Bunagana par le M23. Et elle n'est pas la première. Déjà, Bunagana a été occupée le 13 juin 2022 soit 43 jours après le conclave des chefs d'État du 21 avril à Nairobi. Et 7 jours après la prise de Bunagana, il y a eu un autre sommet à Nairobi le 20 juin. Ces chefs d'État n'ont pas été capables de condamner le M23. Par la suite, il y a eu le communiqué « La rencontre de Luanda » du 6 juillet, qui est resté sans résultat. Bien au contraire, en octobre et en novembre, nous avons vu le M23 étendre la zone d'évasion, prendre le contrôle de Kiwanja jusqu'à Tongo, le massacre de Kichiche, et sans résultat. On est parti au communiqué du 23 novembre 2021 à Luanda, et c'est là que le bât blesse. Dans ce communiqué, il est dit que les contingents kenyans devaient se déployer à Bunagana, à Rutshuru, à Mabenga, étant attendu que lors de l'évasion du M23 dans ces zones-là, la société civile a fait témoignage de la présence d'éléments ougandais dans les rangs du M23. Curieusement, le gouvernement congolais a autorisé au mois de mars que le même militaire congolais dont la présence a été dénoncée dans les rangs du M23, soit ces contingents qui se déploient à Bunagana, à Rutshuru, à Kiwanja. Et M. Félix fait le tour à Gaborone, à Belgique, à Chine, pour dénoncer la cohabitation entre le M23 et les contingents IAC, alors que c'est la présidente de la RDC qui a autorisé que, désormais, l'agression soit légalisée par la présence de ces troupes sous couvert de l'EAC. De quoi se plaît-il? Il y a une complicité. Deuxièmement, dans ce communiqué du 23 novembre 2022, le communiqué de Luanda, il était dit que le plan de déploiement de ces contingents consisterait en un plan en vue du désengagement et du cantonnement du M23. Mais ce dont Félix se plaint, en parlant de cohabitation, même de congestion entre M23 et troupes EAC, résulte du fait que parce que la FRDC sont présentes dans la coordination de l'EAC, et la présence de nos éléments participe à la validation du plan de déploiement des troupes. Nous avons donc accepté que ces contingents ougandais, dont nous avons autorisé l'entrée, puissent se déployer de la manière dont ces troupes se trouvent aujourd'hui. Et donc nous avons cautionné cette cohabitation, cette congestion. On se plaint juste pour distraire l'opinion. Maintenant, on a décidé...
Il n'y a pas que le chef de l'État qui s'est plaint, il y a même la population aussi qui s'est plaint, qui a estimé que la force de l'EAC ne les faisait pas suffisamment ou ne remplissait pas bien sa mission.
Mais c'était connu de tous. Nous avons dénoncé le fait, déjà, dès le départ, qu'on ne pouvait pas se faire d'illusions et penser que ce pays-là, dont la complicité dans l'agression a été attestée par des rapports des experts des Nations Unies, ce pays-là ne pouvait pas être ceux-là qui viendraient combattre le M23. Mais le pouvoir de Kinshasa était le seul à nous dire que dès l'entrée des contingents kenyans par Bunagana, le M23 en aurait pour son compte. Ils ont été silencieux lorsque ces contingents ne sont pas entrés par Bunagana, mais par avion, et le matériel, la logistique est passée par le Rwanda. Bref, il n'y a que le pouvoir qui a entretenu l'illusion, mais c'était connu d'avance que l'on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Car c'est à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui.
Alors, le mandat a été renouvelé, le mandat de la force, bien sûr, de l'EAC a été renouvelé jusqu'au 8 septembre 2023. Pensez-vous que cette fois-ci, cette force va essayer de rectifier les tirs et être plus offensive, comme le veut la présidence de la RDC?
Non.
Ou la RDC?
La reconduction du mandat est différente du changement de mandat. Selon le communiqué dont je vous parle du 23 novembre 2021, signé par M. Félix, entre autres chefs d'État qui étaient là, ce mandat-là, il est un mandat d'interposition. Est-ce que la réunion de Bujumbura d'hier a transformé ce mandat d'interposition un mandat offensif. Il ne faut pas comment le peuple, nous ne sommes pas naïfs. Et donc, prolonger le même mandat d'interposition ne va rien apporter, bien au contraire.
Du côté congolais, il s'agit d'un mandat offensif.
Kelly, est-ce que tu peux lire le communiqué du 23 novembre 2022, signé au bas de page par Félix lui-même, où il est clairement dit que la RDC accepte de créer les conditions de déploiement de la force et assez au fur et à mesure que le M23 va se désengager. Et on ne définit pas, n'est-ce pas, les statuts de ces forces-là. Donc, il est clairement attendu qu'il s'agit, n'est-ce pas, des mandats d'interposition qui a été cautionné contre la volonté du peuple congolais. Dans ce communiqué, le gouvernement a accepté que le M23 devait se replier dans les villages autour de Sabinho. Et lorsque vous lisez ces villages-là, il y a par exemple un village à 7 km à l'est de Rumangabo, et donc le M23 a été autorisé par ce communiqué-là de rester dans une zone d'environ 70 km2. Sans compter la partie du parc de Virunga qui n'y est pas incluse. Donc, le communiqué a constitué à la création d'une enclave rwandaise qui échapperait au contrôle de l'État congolais. Et aujourd'hui, on veut nous distraire pour se plaindre, alors que on dirait qu'il y a eu de l'amateurisme au signe des communiqués sans en comprendre les contenus. Les responsables doivent. Les responsabilités doivent être établies.
Christian Moleka, vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de RDC. Votre analyse sur la décision de l'EAC de proranger, de prolonger, voilà, ou proroger le mandat de la force de l'EAC en RDC, alors que des voix s'étaient levées pour justement demander le départ de cette force parce que son action n'était pas efficace sur terrain.
Le premier constat qu'il faudra faire, c'est que c'est une prorogation de 3 mois. Alors que le premier mandat était de 6 mois. Ça veut dire, si on reste dans une certaine logique, au bout d'un mandat de 6 mois, après évaluation, on aurait dû avoir un nouveau mandat de 6 mois. Mais si l'on choisit 3 mois, c'est pour dire que c'est une prorogation transitoire. Parce que les différents acteurs ne se conviennent plus sur le statut, sur l'approche sur terrain, et même sur l'évaluation du premier mandat. Et c'est comme ça qu'on a, de mon point de vue, posé une période transitoire qui sert à évacuer la question de l'évaluation, évacuer éventuellement les questions liées à l'approche conceptuelle de l'opération, et dans le cas où il n'y aurait point de convergence, probablement commencer à mettre sur pied un plan de retrait, parce qu'on sait que Kinshasa prépare le déploiement de la SADC pratiquement dans la même région, et donc ça pourrait servir de période transitoire pour à la fois préparer ce changement opérationnel, et pour prendre le temps de renégocier profondément l'évaluation de la première opération, éventuellement les nouvelles approches à développer.
Alors, on avait suivi certains chefs d'État des pays membres de l'EAC dire que cette force quittera la RDC que lorsque l'armée congolaise sera capable de sécuriser cette partie du pays qui en proie à l'insécurité. Vous pensez qu'ils vont accepter de partir parce qu'il y a la SADC qui viendra remplacer la force?
C'est plus facile de faire venir des troupes que de les faire partir. Hein, on le sait, parce qu'au-delà de la logistique, il y a des intérêts, il y a énormément d'intérêts économiques au Congo, et donc beaucoup seront peut-être tentés de rester plus longtemps, parce qu'ils peuvent couper du bois, parce qu'ils peuvent accéder au réseau artisanal d'or, de coltan, et donc derrière les questions militaires, il y a énormément de questions des intérêts économiques qui ne se disent pas. Maintenant, c'est à Kinshasa qui a invité d'avoir un discours ferme pour dire, voilà, nous ne sommes pas convenus dans les termes de l'invitation et nous pensons que vous pouvez vous retirer. Si Kinshasa estime qu'il faudrait coupler l'EAC à la SADC, ça voudra dire mettre en place un commandement intégré plus complexe, où il faudra partager des informations. Et quand on connaît les limites qu'a montré le commandement intégré de l'EAC avec la présence quelquefois des officiers rwandais, donc prendre une approche de coupler les deux opérations complexifierait sur le terrain les chaînes de commandement, complexifierait l'opération, parce qu'il faudra avoir autant de chaînes de commandement, d'abord du côté congolais, ensuite du côté l'EAC, ensuite du côté SADC, ensuite du côté intégré, et cette complexité-là, de mon point de vue, ne participera pas à régler les problèmes. Donc, il faudrait que Kinshasa s'assume, soit vous mettez un terme à l'opération avec l'EAC, et que vous remplacez par la SADC, ou carrément vous maintenez transitoirement cette opération en attendant le déploiement effectif des troupes de la SADC. Il faut peut-être ajouter le fait que les certains États de la sous-région n'apprécieraient pas non plus avoir une perte de contrôle d'une présence militaire régionale de la SADC aux frontières du Congo. Et donc le prolongement sert également la nécessité pour l'EAC de garder la main sur la question congolaise. Parce qu'au-delà de prolonger, ils ont commencé à évoquer la feuille de route de Luanda qui parle de cantonnement, dont le délai de 5 jours est largement dépassé parce qu'il y avait une contrainte temporelle de 5 jours qui est largement dépassée et qu'heureusement c'est en ces moments que cette question revient. Ça peut être également pour eux l'opportunité de garder le contrôle sur la question et ne pas se risquer totalement et laisser, je dirais, une zone ouverte aux troupes de la SADC. On le sait, qu'il s'agisse du Rwanda ou de l'Ouganda, cette politique d'avoir une profondeur stratégique au Congo, parfois derrière cette guerre de proxy qu'on nous crée par l'M23, est une stratégie permanente. Et donc, des forces de la SADC qui seraient aux portes du Rwanda et de l'Ouganda n'arrangeraient pas les intérêts de certains États et donc, forcément, ils garderaient la main à travers ce prolongement de l'EAC.
Alors, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbossa Nyamwisi, pense que cette prolongation du mandat de la force régionale va permettre à la partie congolaise de faire une évaluation au 15 juin prochain, ça peut être à Goma ou à Kinshasa, et de constater la bonne volonté du contingent de l'EAC à passer à l'offensive et enfin d'étudier les modalités de remplacement sur l'espace occupé actuellement par cette force régionale. Faut-il continuer à compter sur la bonne volonté ou la bonne foi de la force de l'EAC lorsque déjà, pendant tout le temps qu'ils ont passé en RDC, selon la présidence ou selon les autorités congolaises, on a accusé cette force de collaborer avec les M23. Avec ce renouvellement du mandat, vous pensez, Christian Molika, que cela va changer quelque chose?
Pas vraiment, c'est un communiqué diplomatique, hein, mais qui traduit, peut-être sans le dire, la désillusion du gouvernement sur la stratégie initiale, celle de compter sur la force de l'EAC. Et donc, le communiqué dit clairement qu'en fait, c'est une période de transition. Parce que dans la logique du gouvernement, la page EAC est en train de se fermer pour Kinshasa. Et donc, on travaille dans une transition pour remplacer par la force SADC. Mais cette démarche de Kinshasa ne sera pas forcément celle que va adopter les pays de l'EAC. Est-ce que Kinshasa saura imposer son approche dans les cadres de discussion? On le sait qu'il sera plus large, qu'il sera multilatéral. Est-ce que Kinshasa saura imposer ses points de vue ou on aura une EAC qui voudra rester plus longtemps et avoir une mainmise? Je crois que ce communiqué n'est que l'expression de la désillusion du gouvernement sur l'approche EAC et sa volonté de vouloir changer de page. Mais ces questions-là, on ne change pas comme ça. Ces questions-là ont d'autres implications. Parce que quand vous déployez les troupes, quand vous les contenez pendant 6 mois, même pour faire un plan de retrait, ce n'est pas en 3 mois que vous faites le plan de retrait. Parce qu'il y a des équipements à ramener, parce qu'il y a des casernements à déconstruire, parce qu'il y a des troupes à replacer. Et donc, parce qu'il y a des échanges d'informations à se donner, ce n'est pas dans un délai aussi court que ça pourra se faire. Même si pour Kinshasa, aujourd'hui, la volonté, c'est de tourner la page EAC et de passer à autre chose.
Merci, Christian Molika. Professeur, on va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui nous appellent. On va se rendre, on va prendre cet auditeur de Kinshasa, nous signale la réalisation, qui est en ligne. On va le prendre, puis on revient dans ce studio.
C'est Fariel Malassa depuis Kinshasa. C'est une incompréhension totale dans la gestion sécuritaire du peuple congolais. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Avant la prorogation de ces mandats, est-ce que l'État congolais a eu à faire une évaluation sécuritaire approfondie dans cette zone depuis son occupation par l'EAC? Et pour quelle fin la prorogation de ces mandats? Les dirigeants.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi.
L'évaluation, vous l'avez suivi du ministre. Et elle va être faite, ça c'est au plan strictement technique, stratégique et tactique. Il y a une évaluation au plan diplomatique qui a été faite, des points ont été posés notamment dans l'attitude adoptée par le chef d'État lui-même, qui a dénoncé la fébrilité et la naïveté de ses troupes de l'EAC qui ne parvenaient pas à accomplir le mandat tel qu'est convenu. Il faut dire à ce niveau que nous avons peut-être des compréhensions différentes. D'abord, Pour nous, État congolais, le principe est clair. Cantonnement signifie démarrage du programme PDDSS pour les ex-combattants du M23. Ceux du moins qui auront prouvé qu'ils sont congolais et qu'ils peuvent être réinsérés dans les communautés respectives. Parce que là, il y a des approches à mettre en évidence, notamment le fait que tous ces gens qui se battaient dans ce mouvement ne sont pas tous congolais et qu'il sera appliqué. Ce que l'on sait, c'est que pendant ce temps, ceux qui sont rwandais, ils sont rentrés, ou ils seront rentrés, faisaient parce qu'ils ne voudront pas s'afficher, ça c'est clair. Donc, il est ici clairement établi que l'État congolais, par la volonté du chef de l'État, n'est pas dupe dans cette affaire. J'ai souligné ici le fait que, nous avons hérité d'une armée qui était ce qu'elle était, avec des brassages et des mixages, qui n'a pas permis à ce que, à une période donnée, que nous prenions des mesures sécuritaires adéquates et plus sécurisées à leur niveau, mais aussi que nous sommes à une étape où l'armée congolaise, par la volonté du chef de l'État et l'engagement de celui-ci, est en train de suffisamment se réorganiser, en même temps que les mesures de signalisation qui permettaient aux Rwandais d'avoir une comptabilité totale de nos armements ont été levées, que nous avons désormais la possibilité de nous équiper avec un certain secret au niveau militaire. Il est clairement établi que le Congo ne se livre pas à cœur joie à tous ces chantages et à toutes ces tentatives de vouloir mettre la main, comme l'honorable l'a dit, sur une partie de la RDC. Notre option est une option claire. C'est celle qui consiste pour l'État congolais, pour les FRDC, à se battre d'abord avec leurs moyens, c'est ce que nous pensons et que nous sommes en train de mettre en place comme stratégie, mais aussi parce qu'il y a ce processus de Luanda qu'il faut suivre notamment pour une paix durable, de ne pas nous soustraire de ce qui est aujourd'hui accepté et accompagné par la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin d'être premiers à violer ce processus dont la finalité, s'il est efficacement appliqué, est certainement de mettre au point les conditions d'une paix durable. Parce que cette question, il ne faut pas la résumer à la simple insurrection ou résurrection du M23, mais c'est une question bien large de la sécurité dans l'est du pays que nous n'avons plus vécu depuis 30 ans aujourd'hui. Donc, ça concerne aussi bien le M23 que tous les groupes armés qui écument l'est du pays, et que le principe, c'est que le programme PDDSS les prennent en charge. Il ne s'agira pas d'un désarmement qui s'inscrirait dans un autre cadre, c'est celui qui existe.
Alors,
donc,
pourquoi
à la RDT, à travers ce programme, de désarmer et de réinsérer les combattants du M23, du moins pour ceux qui auront prouvé qu'ils sont congolais. Quant aux forces kassadiques,
je ne pense pas
que ce soit ça.
Professeur, on parle du pré-cantonnement du M23, alors que ce mouvement est encore très actif dans certains territoires de la RDC, et ils ont, ils ont demandé ou obligé un dialogue direct avec le gouvernement congolais avant tout pré-cantonnement ou cantonnement. Comment on peut déjà parler des pré-cantonnements alors que on n'a pas encore l'avis de ces M23?
Nous nous sommes déjà longtemps exprimés sur cette question, qu'il n'est pas question du dialogue avec ceux qui ont semé la mort et la terreur, ceux qui ont pillé, violé et assassiné. Le principe, il est clair. Il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage. Ceux qui ont pris les armes irrégulièrement et illégalement devaient joindre le programme fédéral.
Comptez-en sur la bonne volonté ou la bonne foi de ces rebelles.
Nous n'avons pas envie de la changer. Vous avez suivi aussi la position de la communauté internationale sur cette question, qui est d'accord, parfaitement d'accord, avec le président Tshisekedi, qui ne sera pas question d'un dialogue de réintégration ou d'intégration de l'armée, autant que c'est l'actuelle vision du programme FEDERCES qui n'accepte pas le réengagement de ceux qui ont pris les armes illégalement dans notre armée, parce que c'est ce dont nous souffrons aujourd'hui. Il ne sera pas question d'un dialogue qui consisterait à réintégrer, à passer ou à amuser les éléments bien vendus, mais plutôt à apprécier les conditions de leur activisme pour ceux qui auront commis les crimes.
Merci.
Leur place est bien évidemment devant
les cours et tribunaux pour y être jugés et répondre de leurs responsabilités. Pour ceux qui ne se seront pas rendus coupables de tels crimes, et les mineurs comprenaient qui sont nombreux à être engagés par ces rangs, de devoir rejoindre le centre PDDSS afin d'être démobilisés et de pouvoir être insérés dans leurs communautés respectives. Donc, la force de la SADC ne vient pas tout simplement pour une spontanéité qui est celle de cantonner l'emploi, mais un accompagnement, bien évidemment, dans le scope général de la paix dans son sens, dans son entendement global dans l'est du pays. Ce n'est pas.
Merci, professeur. On va vous redonner la parole, le temps pour nous de prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis Kisangani. Ce sera pour vous, Jean-Baptiste Omundo Kasekwa.
C'est Paulin Sengangabo. Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Je tiens à saluer ce renouvellement du mandat de l'EAC avec effervescence, car c'est grâce à elle que l'hémorragie du M23 a été bel et bien maîtrisée. Ceci dit, ni n'ignore à ce jour que plusieurs localités, chefferies, groupements et j'en pense des provinces du Nord Kivu, tombées du jour et nuit par les rebelles du M23, sous l'œil impuissant de nos forces du FARDC. Mais depuis que les forces de l'EAC sont là, aucune localité, moins encore un groupement, n'a été récupéré par les groupes armés ou ces rebelles du M23. Ainsi donc, il serait important d'accorder une chance encore à cette force de l'EAC, vu leur stratégie militaire. Je pense que la pacification du Nord Kivu est certaine.
Jean-Baptiste Mundoka, c'est quoi?
Non, Paulin appelle de Kisangani, c'est plus ou moins 700 kilomètres de Bunagana, de Rumangabo ou de Kishishe. La réalité qui se passe sur le terrain, Kelly, elle est tellement inquiétante. Au mois de mars, lorsque les contingents ougandais sont entrés par Bunagana, eh bien, ils étaient dotés d'un armement sophistiqué. En même temps, leur commandant disait ouvertement qu'il ne venait pas pour combattre le M23. Depuis un temps, la société civile de Joma fait état de recrutement massif des jeunes à partir des camps de réfugiés basés en Ouganda. Et la semaine dernière, il y a eu ceux-là qui sont sortis des centres du M23 de Tchanzu et même le gouvernement, lors du dernier conseil, a fait état du renforcement des dispositifs du M23 avec comme cible la ville de Goma. Maintenant que les ex-agresseurs sont désormais couverts de la tenue EAC, même les experts des Nations Unies ne sont plus en mesure d'établir un rapport montrant que l'Ouganda ou tel pays aurait apporté des appuis, n'est-ce pas, au M23. Donc, les dangers sont beaucoup plus grands, de sorte que, étant donné qu'on n'a pas changé de mandat, il n'y a pas de mandat offensif, la population du Nord Kivu, du moins, s'attendait à ce que, c'est que M. Félix avait dit à Gaborone que d'ici le mois de juin, il n'était pas exclu d'organiser une cérémonie pour remercier les contingents et déclarer leur retour dans leur pays. On s'attendait à ce que cette parole soit mise en application. Mais finalement, on se raconte et on se pose la question, est-ce que ce sont réellement les dirigeants congolais qui décident de l'intervention de ces troupes sur notre sol? Je rappelle ici, par exemple, que dans le cadre de l'opération Shuja, le 30 novembre 2021, les troupes ougandaises étaient sur le point d'intervenir avec ou sans l'accord de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, cette prorogation décidée à Bujumbura a été faite simplement sur base de la volonté Félix s'est converti une nuit pour dire bon j'accorde, ou bien il y a des forces extérieures qui décident sur nous et nous ne faisons qu'acquiescer et les autorités, pour masquer l'impuissance, développent un discours populiste pour dénoncer, pour condamner, alors que dans les fonds, elles n'ont pas le pouvoir de décider si oui ou non le mandat se termine aujourd'hui, encore que elles n'ont pas accordé la priorité des priorités à la montée en puissance des FARDC, de nos services de sécurité, de sorte que si les contingents ougandais se retirent de Beni aujourd'hui, les contingents kenyans se retirent de la partie sud, on peut bien se poser la question de savoir quels sont les dispositifs sécuritaires que l'État congolais a mis en place. J'attends, tout le monde dit, la SADC va se déployer. Mais ces troupes de SADC, c'est déjà vu, certaines sont là, les contingents de la République sud-africaine, les contingents tanzaniens sont là. Et donc, finalement, nous continuons avec la même musique de la sous-traitance parce que nous avons été incapables d'assurer la montée en puissance de nos propres forces et on doit changer de fusil d'épaule.
Christian Moleka, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Désiré Kiakwa depuis la ville de Goma. Aussi longtemps que ces terroristes resteront au Nord Kivu, leur terrorisme ne cessera de s'amplifier sur terrain. Pourquoi ne pas les amener en dehors du Rutshuru et du Nord Kivu? Ils se disent être Congolais même s'ils ne sont pas. Pourquoi avoir peur des autres provinces? Ce précantonnement sera-t-il aussi pour les éléments RDF camouflés au M23? Quel sera leur sort?
J'aurais bien souhaité que ce soit le ministre en charge de l'intégration régionale qui réponde à cette question, mais vous pouvez quand même dire un mot hein, sur le pré-cantonnement. Déjà, au départ, on parlait de Kichanga, Runyoni ou Sabine au Nord Kivu. Aujourd'hui, on parle des Rumangabo. Cet auditeur dit pourquoi n'est pas envoyer ces gens en dehors de la province du Nord Kivu.
Mais parce qu'il a lui-même la réponse, c'est une guerre par procuration. Lorsque nous parlons du M23, c'est une guerre par proxy menée par le Rwanda. Et donc une rébellion qui n'est qu'une guerre par proxy ne peut pas avoir pour base arrière, ne peut avoir une base arrière éloignée d'elle. Donc la rébellion se tient toujours sur le corridor frontalier, avec le dos tourné vers le parrain, parce qu'on peut avoir à la fois le soutien logistique et le soutien en homme. Si vous déplacez les rebelles pour Kindu, par exemple, parce qu'à un moment donné, on a parlé des Kindu, c'est les placer dans un îlot où ils sont découpés de leur base arrière. Et je ne pense pas qu'ils accepteraient un tel scénario qui les isolerait, un peu comme une sorte d'île.
Est-ce que c'est le M23 qui doit décider ou c'est l'EAC?
Est-ce que nous sommes en capacité, l'honorable l'a encore rappelé, est-ce que nous sommes en capacité dans la négociation d'imposer notre point de vue dans cette multilatéralité-là? C'est ça l'enjeu pour les Congos. Je crois qu'à un moment donné, nous n'avons pas les capacités de maîtriser l'agenda de manière globale. Et donc dans la multilatéralité, il y a des concessions que nous faisons énormément. Et je crois que Rumangabo ou Sabinho sont des concessions que Kinshasa fait parce qu'il n'est pas dans les capacités d'imposer unilatéralement son point de vue. À cela, il faut ajouter que forcément les troupes qui composent les RDF ou ceux qui sont congolais, est-ce qu'il y a un travail d'identification qui sera fait? Je suppose que dans les cantonnements, il sera fait un travail d'identification et que c'est une des étapes nécessaires dans les DDR. Donc on commencera par un travail d'identification avant d'aller vers le processus DDR au complet. Et je suppose qu'à ce stade-là, on pourra identifier qui sont congolais et qui ne le sont pas. Pour être éventuellement ramenés dans leur pays d'origine.
Alors en conclusion, Christian Moleka, la suite, comment vous la voyez? Vous pensez vraiment que avec ce renouvellement du mandat, les choses pourraient changer quand même sur le terrain?
Difficilement. Moi, je n'y crois pas trop. Comme je l'ai dit, c'est une mesure transitoire et qui va demander à la fois aux différentes parties de se convenir sur le nombre de points de divergence, l'évaluation, les approches sur le terrain. Et donc cette période transitoire pourrait nous amener vers éventuellement une sortie du processus ou sa reconduction si les termes ont été rapprochés. Je ne suis pas convaincu qu'en 3 mois il y aura des grands changements. Peut-être le seul mérite de l'EAC, c'est d'avoir donné du temps au gouvernement parce que les fronts s'est stabilisé et ça donne à la partie congolaise les temps de mieux se structurer militairement. Et qui semble aujourd'hui qu'une certaine opinion passerait qu'il faut régler la question non plus politiquement, militairement, parce qu'on a pris le temps de se structurer, de se mieux organiser par rapport il y a 6 mois. Mais ça encore, c'est la réalité du terrain qui prouvera le contraire.
Professeur Jean-Claude Tulumba, en 30 secondes, votre conclusion.
Les choses ne vont pas forcément changer, madame, par rapport au fait que ce mandat est renouvelé. J'ai insisté plutôt sur le fait que le gouvernement congolais et le président de la République ne sont pas restés bras croisés. C'est sur notre armée que nous comptons. Fondamentalement, que nous sommes en train effectivement d'organiser, d'équiper, c'est pas notre armée, pas notre volonté que les choses vont changer et donc elles devront changer.
Merci, professeur Jean-Claude Tulumba. Jean-Baptiste Moïndo, c'est quoi?
il faut rapidement renforcer le bouclier autour de Goma, parce que nos ennemis vont viser pour mettre Kinshasa à genoux, comme cela a été le cas en 2008-2012, probablement mettre en exécution la menace contre Goma, mais également il faut rapidement travailler à libérer les zones occupées pour que les populations congolaises participent aux élections, parce que le Rwanda et les agresseurs risquent d'exploiter ces frustrations dites à l'exclusion afin d'assurer l'intégrité nationale et la cohésion de notre pays.
Merci Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Dona Madimba qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Mimi Kindou est à la mise en onde, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.